Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. Géopolitique se penche aujourd'hui sur les sociétés civiles. Les exemples se sont multipliés ces dernières années de situations qui ont vu la capacité des sociétés civiles à faire basculer des régimes politiques pour défendre les libertés et les droits et s'approcher de l'idéal démocratique. La lutte contre le régime de l'apartheid en Afrique du Sud en est un bel exemple, mais il n'est pas le seul. Les événements récents ont montré que de l'Ukraine au Brésil, de la Turquie à la Chine, de la Thaïlande au Sénégal, les sociétés civiles bousculent les codes quand ce n'est pas le pouvoir qu'elles prennent. Elles expriment leur volonté et ne se laissent plus dicter leur conduite par leur gouvernement. Peut-on parler de révolution stratégique majeure? Est-ce que plus rien ne sera vraiment comme avant? Regard sur le changement du rapport de force entre les citoyens et le gouvernement, les facteurs qui permettent le développement des sociétés civiles, c'est l'autre visage de la mondialisation, avec une carte géographique des sociétés civiles en pleine mutation, en plein développement, comme le montre le baromètre 2013 des sociétés civiles que vient de publier le Comité catholique contre la faim et pour le développement, Terre solidaire, en partenariat avec l'Institut des relations internationales et stratégiques, et où l'on apprend que l'Amérique du Sud est le continent où les libertés sont les mieux respectées, que sur le continent africain, l'Afrique du Sud fait figure d'exemple, et que la situation au Sénégal est assez vertueuse, alors que la situation est assez contrastée en Asie. En bas du tableau figurent l'Algérie et la Chine, et une surprise, celle de voir Israël aux côtés de pays au régime autoritaire qui ne laisse que de faibles marges de manœuvre à leur société civile, alors que son indice de développement humain et son système institutionnel démocratique rattachent le pays au groupe des nations développées. Nos invités, ils sont trois. Xavier Ricard, directeur du partenariat international au CCFD Terre solidaire, docteur en anthropologie sociale et ethnologie de l'école des hautes études en sciences sociales. Bonjour.
Bonjour.
Philippe Mayol, chef du service Afrique au CCFD Terre solidaire. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Jacques Kourlianski, spécialiste d'Amérique latine et chercheur à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Bonjour.
Bonjour.
Je lis dans votre introduction, Xavier Richard, la société civile est à la société ce que la quille lestée est à la mature, une force inertielle stabilisatrice qui réduit les embardées et les oscillations autour du point d'équilibre. Qu'est-ce que l'on peut dire du rôle que les sociétés civiles ont joué et sont appelées à jouer dans l'histoire sociale et les relations internationales ?
Cette métaphore, évidemment, est inspirée par une lecture un peu hegelienne, si vous voulez, de l'histoire, hein, et puis de la construction des États. Qu'est-ce que nous dit cette lecture ? C'est que finalement, les sociétés civiles sont en quelque sorte l'espace d'élaboration des intérêts. Une fois que les individus s'affranchissent des rapports qui les relient à leur famille, les structures d'obligations liées à la parenté notamment, lorsque les individus s'en affranchissent et qu'ils commencent à se mouvoir dans un espace qui est en quelque sorte déterminé par leurs intérêts particuliers, ils se structurent en groupes d'intérêts. Et ces groupes d'intérêts ont ceci de particulier que pour qu'ils puissent se reconnaître les uns les autres, ils ont besoin d'un tiers médiateur qui est l'État. Et en quelque sorte, la société civile, cet espace de négociation entre des intérêts particuliers, est non seulement la condition de possibilité, mais en quelque sorte, comment dirais-je, l'espace de résonance de l'État. Et c'est ce qui lui donne cette caractéristique de lest ou de quille, c'est-à-dire que au-delà des embardées conjoncturelles liées, disons, au courant qui, de manière temporaire, l'emporte et qui exerce donc la souveraineté à tel ou tel moment de l'histoire, ce qu'ils ont toujours en face d'eux, ce sont ces groupes d'intérêts plus ou moins constitués qui, eux, représentent le mouvement social, le mouvement de la société dans son ensemble, la structuration de cette société sur le long terme. Et donc, dans ce sens, la société civile est un élément déterminant de la construction des États démocratiques. Elle n'est pas du tout un frein, ni même un contre-pouvoir, au sens où elle aurait en quelque sorte comme vocation de limiter l'arbitraire du despote, elle est ce qui donne raison, qui donne sens à l'État, puisque l'État n'a d'autre légitimité, en fin de compte, que d'arriver à asseoir une parole universelle qui vaut pour tous, mais qui en même temps permet à ses acteurs de se reconnaître dans leurs intérêts particuliers, comme des acteurs qui doivent coexister nécessairement, et donc dont les intérêts doivent être en quelque sorte tempérés les uns par les autres.
Alors un commentaire l'un et l'autre à ce que vient de dire Xavier Ricard, Jean-Jacques Kourlianski, Philippe Mayol, après ça on en viendra, aux facteurs qui permettent finalement un bon développement pour mieux comprendre. Mais dans un premier temps, un commentaire Jean-Jacques Kourlianski.
Oui, non, moi j'accepte la définition. Il y a pas de. Mon regard est plutôt tourné vers l'Amérique latine. Mmh. Non, le simple peut-être commentaire que je pourrais ajouter, c'est que il faut introduire une dimension au-delà de la conjoncture, une dimension de profondeur historique. Et donc on voit une évolution de ce que j'accepte la définition de la société civile est telle que vous l'avez faite, mais on voit une évolution des sociétés vers plus ou moins de démocratie et une société civile qui qualitativement évolue et n'est pas la même. Donc la société civile latino-américaine à la sortie des dictatures, excusez-moi, je reviens à ce que je connais le mieux, il y a 25-30 ans, n'est plus celle d'aujourd'hui que l'on a vue, telle qu'on l'a vue fonctionner au Brésil l'année dernière, et encore moins telle que, bien que ça soit pas couvert par l'observatoire, ce qui se passe au Venezuela aujourd'hui. Donc c'est lié à un contexte politique, économique, qui est lui-même en évolution. Donc ce qui me paraît extrêmement intéressant, c'est que l'observatoire travaille dans la continuité pour mesurer ces évolutions qui ne manqueront pas de se faire jour.
Philippe Mayol.
Bah, tout à fait. Pour continuer ces premiers éléments de réflexion, quand on regarde sur le continent africain, l'histoire récente des pays et l'histoire, je dirais, culturelle, et tous les paramètres culturels des différents pays expliquent pour une grande part toute la structuration et la mobilisation des sociétés civiles. Si on regarde un pays comme le Mali, par exemple, et un pays comme la Centrafrique, je dirais que un pays avec une grande vitalité associative comme le Mali ou le Sénégal, et un pays avec une vitalité associative plus difficile comme la Centrafrique, et qui était déjà difficile bien avant les événements que l'on connaît actuellement, s'explique en grande partie aussi par l'histoire du pays, la manière dont le pays s'est organisé, que ce soit avant la période coloniale, pendant la période coloniale et après pendant la période d'indépendance. Donc ce facteur historique, ce facteur de structuration sociale et la manière dont les fractures au sein de la société se vivent de fait des modernités auxquelles sont confrontées les populations africaines est un élément important qui explique les vitalités des sociétés civiles.
Alors, on viendra dans le détail, parce qu'il y a des surprises dans ce baromètre, en tout cas pour moi, et je pense aussi pour nos auditeurs. Dans un premier temps, je me retourne à nouveau vers vous, Xavier Ricard, pourquoi finalement ce baromètre ? Et alors, moi j'ai cette question, pourquoi avoir exclu les pays de l'hémisphère nord de votre faisceau d'analyse ?
Alors, je commence par la deuxième partie de la question. Bon, il est évident que le contenu de ce baromètre n'est pas totalement indépendant de l'auteur du baromètre. Bon, donc l'auteur du baromètre, c'est une organisation qui s'appelle le CCFD Terre Solidaire, qui a vocation dans le monde, disons, associatif français, à aborder les problématiques de solidarité internationale. Donc, elle est en quelque sorte vouée par sa vocation, sa mission, à travailler sur les aspects internationaux de la solidarité. Et donc, précisément, si on dit que la société civile repose en partie sur ces dynamiques de libre association fondées sur des élans de solidarité, précisément parce que les gens s'associent pour traiter des problèmes qu'ils ont en commun, hein, dont ils se sentent solidaires les uns aux autres. Bon, dès lors que donc cette société civile a partie liée avec la notion de solidarité, si l'on considère que ce qui nous intéresse en particulier du point de vue institutionnel, c'est cette dimension internationale, on va se tourner tout de suite vers les pays hors France, bon, et en particulier hors Europe, puisque historiquement cette solidarité, nous l'avons exercée, nous l'avons éprouvée en premier lieu à destination et avec les populations les plus démunies, celles qui étaient au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale dans un processus d'émergence, de développement, hein, disait-on, de rattrapage. À l'époque, on avait encore foi dans la conception du développement comme rattrapage. On en est un petit peu sorti depuis. Et bon, voilà. Donc ça explique que ce baromètre se penche sur le cas de ces 40 pays catégorisés, comme vous le dites, comme des pays en développement. Ceci étant, je ne peux pas encore tout à fait garantir que ça ne va pas évoluer dans l'avenir, parce que c'est évident que, par exemple, toute la zone d'Europe centrale, où le CCFD a eu historiquement des partenariats, pourrait être tout à fait incluse dans le baromètre. Si je pense à ce qui se joue en ce moment en Ukraine, il est évident qu'il y a encore 3 semaines, à l'époque où Mme Ashton rencontrait M. Yanukovych et discutait du partenariat entre l'Ukraine et l'Union européenne, personne ne parlait, et c'est quelque chose quand même qui crevait les yeux, de la société ukrainienne. Et la société ukrainienne s'est éveillée, et la société ukrainienne a d'une certaine manière participé à l'histoire qui se joue dans cette région d'une façon extrêmement décisive. Donc on voit bien que cette dimension de comme vous dites, de quille, hein, en tout cas la puissance inertielle de ces sociétés, qui en quelque sorte fait obstacle aux négociations entre les appareils d'État, a tout à fait joué son rôle, hein, a eu un rôle déterminant, et donc ça mériterait qu'on s'y intéresse un peu partout, et non seulement évidemment dans les pays qui ont été retenus pour cette première édition du baromètre. Voilà. Alors, ça c'était la première partie de la question, alors il y avait une deuxième partie, excusez-moi, peut-être suis-je trop long dans mes réponses, quelle était-elle, rappelez-la-moi par où ?
Non, alors pourquoi ce baromètre et surtout, pourquoi avoir exclu les pays de l'hémisphère nord du faisceau d'analyse ? Il me semble que vous avez répondu.
Alors pour ce qui est donc des pays de l'hémisphère nord, cette exclusion s'explique, je disais, pour les raisons institutionnelles que j'évoquais. Mais en revanche, pourquoi ce baromètre ? Eh bien parce que nous constatons qu'il y a une universalité. C'était une hypothèse qui, en quelque sorte, a aussi fondé la naissance du CCFD, une hypothèse de l'universalité du fait social. C'est-à-dire que dans tous les pays, sous toutes les latitudes, quelque chose de l'ordre de l'universel se fait jour. Hein, les individus s'associent, les individus précisément, et ça, vous avez tout à fait raison, Monsieur Kourlianski, de le situer historiquement. C'est-à-dire que ce progressif arrachement à toutes les relations surdéterminantes de la parenté, et en particulier la relation à l'autorité, comme une autorité surplombante. Ça, c'est quelque chose qui progressivement se fait jour de manière spécifique à chaque contexte. Donc, évidemment, la société civile, d'une certaine manière, trouve sa raison d'être dans ce processus d'émancipation. Alors, l'hypothèse du CCFD, c'est que ce processus est à l'œuvre un peu partout, qu'il y a une dimension en quelque sorte dialectique des droits, et que on peut parier sur des partenariats avec ces sociétés civiles partout. Et si nous avons décidé de produire ce baromètre, c'est parce que nous avons voulu nous doter d'un outil qui nous permette de faire des comparaisons entre la manière dont ce processus d'émancipation se donne à voir, quelles sont les constantes, qu'est-ce qui est commun à différents pays, qu'est-ce qui au contraire est spécifique, pour essayer d'en tirer des leçons générales.
Là aussi, on va développer. Alors, vous parliez, Xavier Ricard, de l'universalité du fait social. En quelques mots, les uns les autres, quels sont finalement les facteurs qui permettent un bon développement de la société civile ? Vous parlez de société cohésive, un petit décryptage peut-être, Philippe Mayol ?
Je dirais que quand on regarde les différents facteurs, on a croisé ce baromètre avec l'indice de développement humain du programme des Nations Unies pour le développement, pour voir finalement est-ce qu'il y avait une corrélation entre des pays en bas du classement et des pays en du classement, et on a aussi voulu retenir un faisceau d'indices liés aux libertés publiques, que ce soit liberté de la presse, que les notions de corruption, que les notions de démocratie. Or, quelque chose qui de fait paraît évident, mais je dirais que ce travail nous a permis de le vérifier, le principal paramètre d'existence et de structuration des sociétés civiles, si on part du principe que dans toute société, les gens sentent le besoin de s'organiser pour prendre en charge leur propre développement, c'est quand même notre postulat de départ et qui se vérifie partout. Il n'y a aucune contrée de par le monde où on ne voit pas des structurations communautaires, des structurations villageoises ou des gens qui mettent en place des mécanismes d'entraide ou des mécanismes pour revendiquer des droits. On le retrouve sur toutes les latitudes. Et les espaces démocratiques jouent un rôle important pour le développement de ces pays.
Où est l'œuf et où est la poule, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il faut que l'espace démocratique soit là ou le rôle précisément des sociétés civiles est de faire valoir donc ces droits et d'installer ou d'instaurer ou de permettre l'instauration d'une plus grande d'un plus grand espace démocratique.
Je dirais que vous parliez de la poule et de l'œuf, on est vraiment sur ce sujet-là. Enfin, c'est l'un a besoin de l'autre et vice-versa. Et quand on regarde, si je reste sur le continent africain, les pays où les sociétés civiles sont le moins développées, c'est les pays où les marges de manœuvre démocratiques, les espaces démocratiques sont très très limités. Vous parliez de l'Algérie en bas du classement, on peut citer l'Éthiopie en Afrique, même des pays avec des dictatures fortes ou des régimes autoritaires comme le Tchad, par exemple, finalement, il y a des marges de manœuvre qui permettent une liberté d'association, qui permettent une liberté d'échange, qui permettent des débats contradictoires au sein de la société. Certes, de façon plus limitée qu'un pays comme l'Afrique du Sud ou qu'un pays comme le Sénégal. Donc c'est vraiment quelque chose de fondamental. Parce que si on regarde le Niger ou le Tchad, qui sont quand même en bas du classement de l'indice, on regarde un pays comme le Rwanda, qui est mieux placé en termes de l'indice de développement humain du PNUD, on s'aperçoit que les sociétés civiles rwandaises, je dirais, au moins de possibilités de s'exprimer, sont moins bien classées dans ce baromètre parce qu'elles sont moins structurées du fait d'espaces démocratiques plus restreints qu'un pays comme le Niger, qui est pourtant plus pauvre au regard des indices des Nations Unies que le Rwanda. Donc c'est vraiment ces espaces et donc cette possibilité pour des citoyens de pouvoir s'organiser au sein d'un quartier, d'une communauté au niveau national pour revendiquer des droits.
Alors, l'un des éléments intéressants de ce baromètre, c'était finalement de voir l'influence qu'ont eu les sociétés civiles latino-américaines sur les sociétés civiles africaines. Ça me permet de me tourner vers vous, Jean-Jacques Kourlianski. L'Amérique latine, continent le mieux placé en termes de respect des libertés, qu'est-ce que l'on peut dire des sociétés civiles latino-américaines? On parle de la société brésilienne comme la plus dynamique au monde. Quelques mots, Jean-Jacques Kourlianski.
Oui, enfin, c'est un constat qui est assez paradoxal. Alors, c'est vrai que la situation de la société civile aujourd'hui en Amérique latine est le résultat de combats, de luttes assez difficiles.
Ça se situe dans les années 70.
Oui, combats, là, ça a été la conquête de la démocratie. Faut pas oublier que le dénominateur politique commun de tous ces pays dans les années 70-80, c'était d'avoir des régimes autoritaires avec un chef d'État ou un collège d'officiers qui géraient les contradictions politiques par des méthodes extrêmement violentes. Donc, ces pays-là sont sortis de ce type de régime. Il y a eu une expression d'une diversité à la fois sociale et politique qui s'est affirmée avec une réduction progressive, ce qui est le signe d'une certaine maturation de la violence. Alors, cela dit, je dirais que c'est assez paradoxal dans la mesure où l'on voit ressurgir des phénomènes de violence dans des régimes qui apparemment étaient arrivés à un niveau de maturation démocratique et sociale assez importante. Les manifestations qui se sont déroulées au Brésil l'année dernière ont été accompagnées d'un certain nombre de phénomènes de violence. Celles que l'on constate aujourd'hui au Venezuela également, il y a eu d'autres types de manifestations qui se sont déroulées avec accompagnées de phénomènes violents au Pérou notamment pour des ou en Bolivie des collectifs de populations d'origine indienne de peuples originaires autochtones donc qui se considèrent spoliés dans le cadre des modèles de développement qui sont suivis par la majorité des États latino-américain. Aujourd'hui, donc on est dans une espèce de phase intermédiaire, on va vers autre chose, je ne sais pas très bien vers quoi, mais le constat que l'on peut faire, c'est qu'on voit un retour de revendications qui passent par l'utilisation de la violence, qui est le signe que quelque part, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus aussi bien qu'avant, dans un contexte qui pourtant est un contexte économiquement favorable. Hein, c'est après les pays asiatiques, c'est en Amérique latine que les taux de développement, la croissance, la réduction de la pauvreté sont les plus significatifs, hein, à la différence de ce qu'on constate en Europe et ailleurs, au point que la plupart de ces pays-là ne sont plus considérés comme des pays en développement classique ou en voie de développement, mais comme le signale d'ailleurs Pascal Boniface dans la préface de cet ouvrage, comme des pays émergents. Donc c'est une autre catégorie, une autre réalité, ce qui a justifié d'ailleurs dans un numéro de l'Iris sur les dernières manifestations des revendications dans le monde, un parallélisme avec d'autres phénomènes revendicatifs, en particulier ceux qui ont été constatés en Europe, en Espagne, où est né le mot, où a pris, disons, racine le phénomène de l'indignation.
Géopolitique reviendra dans quelques semaines sur ce numéro que vous évoquez de la revue internationale et stratégique. Alors juste pour nos auditeurs, et c'est vrai que le temps va nous manquer, donc la question je la poserai en début de deuxième partie d'émission. Pour resituer les choses, Brésil et Argentine sont plutôt bien placés en termes de société civile, Jean-Jacques Kourlianski, ainsi que le Pérou. En revanche, moins bien sur le Mexique, peut-être qu'on développera, de même que j'aimerais qu'on aille plus loin sur l'idée que vous évoquiez à l'instant, sur ce que révèle la violence que l'on constate aujourd'hui en Amérique latine, qu'est-ce qui ne fonctionne plus comme avant? C'est la question sur laquelle nous reviendrons en deuxième partie d'émission Géopolitique. Nous retrouvons nos invités Jean-Jacques Kourlianski, Philippe Mayol et Xavier Ricard dans quelques instants. À tout de suite.